Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans le Café du Centre et aujourd'hui on est en compagnie d'un invité très spécial, ou du moins que j'apprécie beaucoup. On est en compagnie de Jean-Luc Cruc, que je tiendrai directement à remercier pour avoir accepté cette invitation. Comment allez-vous?
Ça va bien. Tu as vu comme moi, je suppose, d'avoir les sondages. Et donc quand on a des sondages comme cela, allez, on se mentirait à soi-même en disant que on n'a pas le cœur à la joie. Et ça me fait d'ailleurs penser à une phrase qui a été prononcée par une des personnes que j'ai le plus appréciée. Mm-hmm. Et j'apprécie le plus dans la vie politique. Il est décédé. Tu l'as peut-être pas connu. Il s'appelait Arnaud de Cléty. Ça a été le ministre de l'économie wallon du PRL à l'époque, qui était extrêmement proche, ou par modestie, c'est plutôt moi qui dois dire, extrêmement proche de lui. Et il avait un leitmotiv que j'ai toujours gardé dans le coin de ma tête. Oser, risquer, gagner. Et je crois qu'ici, Maxime, le président des engagés, a osé une refondation, a osé changer. Pas que on oublie le passé, on n'efface jamais le passé, il est ce qu'il est. Mais a osé écrire une nouvelle histoire. Il a pris les risques qui sont liés
à
ça.
C'est clair.
Avec parfois des déceptions des uns et des autres, ou des critiques. Il a continué, il a gardé sa stratégie, en osant aller dans l'opposition aussi.
Ouais.
Eh bien aujourd'hui, je peux dire que cette première étape, il l'a gagnée. Et avec lui, on va tenter d'en gagner d'autres encore.
C'est parfait, mais j'ai été convaincu, moi, par la transition entre CDH et les engagés. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a directement embrayé sur les sondages, et c'est vrai que, bon, je peux pas mentir non plus, j'ai un peu la banane depuis les dernières publications et ce grand baromètre du soir. Mais avant toute chose, pour poser un peu le cadre, est-ce que, Jean-Luc, vous pourriez vous présenter potentiellement à nos auditeurs, auditrices qui vous connaîtraient pas encore?
D'abord, entre nous, ça va être tu.
Allez, c'est parti sur tu.
Tu m'envoies la poubelle. Très simplement, pour me présenter, moi j'ai 60 ans, et sur le plan professionnel, j'ai été avocat pendant plus de 30 ans, après avoir fait un parcours universitaire, qui est celui forcément du droit, candidature en droit à Saint-Louis, licence en droit à Louvain, Europäisches Recht à Gand, et puis j'ai aimé ma profession, mais très rapidement, le feu politique était là, je voulais changer la société, et donc c'est Jean Gaulle qui est venu me chercher à l'époque. Je dis toujours, d'ailleurs, je suis un peu gaullien, moi, parce que j'y pense tous les jours encore à Jean Gaulle. Et bon, voilà, je suis rentré dans cette vie politique. 22 ans comme bourgmestre de Franlay-en-Vin, c'est beaucoup, peut-être même beaucoup trop, diront certains. 20 ans de carrière parlementaire dans le dos, et 5 ans de ministre. Et puis, sur le plan plus privé peut-être, pour autant que ça intéresse qui que ce soit. J'ai une compagne qui s'appelle Virginie, et j'ai deux enfants puisque ce sont des jumeaux. Ils ont 26 ans, Rachel et Nathan. Voilà pour faire short.
Ouais, c'était plus qu'exhaustif. Je me permets aussi de me présenter potentiellement à notre audience.
Et il manquerait plus que ça.
Pour ceux qui me connaîtraient pas encore, je suis déjà passé donc dans le Café du Centre la saison 1 avec Ismaël, notre cher président adoré, le président de Génération Engagée. Et en cours, en résumé, je suis un étudiant en sciences politiques. J'ai commencé à l'UNAMUR en faisant un bachelier en sciences politiques. Et là, je continue mon cursus à l'ULB, à l'Université Libre de Bruxelles, plus précisément à l'IEE, pour étudier les études européennes, dans l'objectif, plus tard, d'être impliqué dans ce qu'on appelle la bulle européenne de façon générale. Mais je dirais, ce qui occupe la plupart de mon temps, c'est les engagements à côté. Je suis donc vice-président national de la Fédération des étudiants libéraux, qui est une organisation de jeunesse qui a pour objectif de promouvoir les valeurs libérales sur les différents campus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis donc aussi engagé, puisque j'ai rejoint Génération Engagée il y a de ça maintenant quelques mois, courant avril. Mais c'est ça qui occupe en réalité la plupart de mon temps. La vie académique, c'est très chouette, lire des textes, c'est très chouette, aller au cours magistraux, c'est très chouette. Mais c'est vrai que j'avais aussi cette envie de concrètement tenter à mon échelle de faire changer les choses. Et donc voilà. Et donc on va continuer la discussion cette fois-ci en évoquant un thème d'actualité. C'est parti pour la séquence des sujets d'actu. Moi, ça va pas être une très grande surprise, mais il a été annoncé, je crois, ce week-end dans différents journaux, que septembre 2023 battait le record de 2006 du mois de septembre le plus chaud. Vous l'aurez compris, ceux qui nous écoutent ici, mon objectif ici, c'était de ramener, via ce thème d'actualité, à un thème plus global encore, le réchauffement climatique, la réalité de ce réchauffement et tout doucement commencer et entamer une réflexion avec toi, Jean-Luc. Aujourd'hui, quand on parle de transition climatique, quand on parle de réchauffement climatique, de moyens de tenter d'endiguer ce réchauffement climatique, on entend plutôt des mouvements de gauche, centristes également désormais avec les engagés, mais de prime abord, on n'associe pas trop le mot et l'idéologie libérale à l'idéologie ou du moins la transition écologique. Et moi, je voulais un peu discuter avec toi de est-ce que ces deux mots peuvent synergiser d'une certaine façon, ou est-ce que dire libéral et écologie dans la même phrase, c'est se rapprocher d'un oxymore?
Non. Et d'ailleurs, moi, j'évoque toujours ce que j'appelle le libéralisme social.
Ouais.
Et par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, j'ai deux convictions. La première, c'est que le néolibéralisme, qui peut être mieux expliqué par le capitalisme, est incapable, et je pèse mes mots, incapable de répondre, d'apporter les solutions à la transition environnementale et écologique. Le libéralisme l'est. Pourquoi? Parce qu'il promeut ce qu'on appelle des valeurs de la concurrence. Mais des valeurs de la concurrence encadrées par des règles. Et des règles suffisamment solides pour que les valeurs soient ces règles. Les valeurs de la lutte contre le réchauffement climatique et du rétablissement, plus rapidement possible aussi, de la biodiversité. C'est entre autres la taxe carbone pour des produits qui proviennent de l'extérieur de l'Europe. Parce que on demande à nos industriels de faire cet effort-là. Et parfois, ces industriels, qui sont d'ailleurs souvent ceux qui les premiers ont compris hein, qu'il fallait passer à la transformation, mais si on leur demande de faire cet effort, s'ils le font en plus, au moins qu'ils soient mis sur pied d'égalité avec les autres. Mais là aussi, il y a des valeurs d'exemple. Je prends toujours celui de l'aviation privée. Alors, soit c'est pas grand-chose dans l'aviation en général, mais comment est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui, dans leur quotidien, font un effort, alors que la fin du mois est difficile, que d'autres pourraient tout simplement partir en week-end, peut-être aussi pour leurs affaires, employer un mode de transport qui est éculé. Tout ça, c'est aussi ce que j'appelle du libéralisme social. Donc c'est loin d'être contradictoire, c'est même complémentaire. Et moi, je ne crois pas aux solutions marxistes. Le marxisme, c'est, rappelons quand même que c'est la lutte des classes. Je ne reproche à personne, moi, d'avoir de l'argent. Je veux simplement que l'homme ne soit pas un rapace pour l'homme. Et si quelqu'un a de l'argent, il doit aussi accepter qu'il y ait de la redistribution avec une partie des bénéfices.
Je peux que te rejoindre là-dessus. Je suis un des grands défenseurs, du moins déjà au sein de la FEL, de cette vision d'un libéralisme qui revient aux sources en réalité, puisque le libéralisme philosophique, c'est pas le néolibéralisme qu'on a appliqué ici dans nos pays occidentaux, c'est pas le capitalisme. Le libéralisme idéologique, si on revient à la racine, c'est un mode de pensée qui promeut l'émancipation de l'individu, c'est un libéralisme qui revalorise le travail aussi comme créateur de richesse, pas simplement le capital, c'est aussi un libéralisme qui remet en avant le rôle de l'État dans l'économie, un rôle défini, mais où l'État est un acteur légitime dans la sphère économique.
En fait, tu sais, je pense que ce qui est en train de percoler dans la population au travers du message des engagés et finalement de ce qu'ils considèrent, ce que nous considérons, pardon, comme étant notre référence, et je n'inviterai jamais assez les gens à lire le manifeste, c'est que on fait ce pari, nous, de la nuance, par le centre. Et pendant tout un temps, beaucoup ont pensé, analystes politiques en ce compris, qu'il fallait importer une forme de politique des États-Unis en bipolarisant, polarisant finalement la société, en étant très à droite d'un côté ou très à gauche de l'autre. Et nous, on fait le pari contraire. On fait le pari de ce que j'appelle moi la révolution des nuances. Je sais pas si on aura raison, mais c'est tellement passionnant que de pouvoir regarder un problème d'abord à travers la connaissance, l'expertise, la réflexion de ceux qui ont finalement fait comme métier et profession, l'étude de ce problème, et ensuite prendre sa responsabilité sur le plan politique.
Maintenant qu'on a un peu parlé de climat, d'écologie, de philosophie libérale, je te propose maintenant d'amener toi aussi ton sujet d'actualité. Est-ce qu'il y a un truc récemment dans la presse dont tu as envie de discuter aujourd'hui ?
Mais comme tu m'as demandé de parler d'actualité, je vais rester dans l'actualité très récente, malheureusement chaude, et dans tous les sens du terme, qui s'appelle la pédophilie dans l'Église. Et une fois de plus, c'est venu de Flandre. Je dis une fois de plus parce que parfois on ne mesure pas toujours ce que ça crée comme émoi en Flandre. Je ne crois pas exagérer en disant que pour les Flamands aujourd'hui, ce dossier est considéré un peu comme le dossier que nous avons bien connu, malheureusement connu, de Julie et Mélissa, l'affaire du trou. Ouais. Et donc là, je pense sincèrement, j'ai envie de le dire, mais au plus profond des yeux, il est temps il est temps de jouer et de faire, pas jouer, on ne joue pas avec ça, de faire la transparence sur ce dossier. Curé ou pas curé, un pédophile, c'est un pédophile. Et s'il est curé, il n'y a aucune excuse. S'il est évêque, il n'y en a pas non plus, pour une fois. Osons ouvrir ce dossier, mais jusqu'au bout. Parce qu'est-ce qui se passe dans l'Église ? Se passe aussi dans d'autres domaines de la société. Je lisais récemment encore dans le sport. Moi, j'ai eu cette chance de, et j'ai adoré de pouvoir jouer en équipe nationale militaire de hockey. Voilà, j'étais un bon joueur de hockey, je pense. Alors, j'ai pas connu ça dans l'équipe militaire, mais je suis certain que dans les sports, il y a de cela aussi, qu'il y a aussi des traumatismes liés à une forme d'autorité, pour ne pas dire d'autoritarisme parfois, à l'égard de sportifs. Il n'y a pas de domaine de la société qui malheureusement passe à côté de cela. Eh bien, la Belgique a souvent été à l'avance sur des problèmes sociétaux.
C'est clair.
Là aussi, on doit pouvoir l'être. Et donc, il y a une commission qui va être mise sur pied au Parlement fédéral. On pourrait, à mon sens, en mettre d'autres sur pied, notamment au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais. Et bien que ça se passe avec, une fois de plus, toute l'expertise nécessaire sur le plan juridique, le droit dans un état de droit, ça compte, mais aussi sans que personne ne puisse encore tirer un frein.
Quelle serait un peu ton analyse du fait que cette affaire, comme tu l'as dit, elle reste encore majoritairement confinée, entre guillemets, en Flandre? D'après toi, qu'est-ce qui fait que cette affaire de pédophilie dans l'Église n'a pas autant percolé chez nous dans la sphère francophone?
Je n'ai pas de réponse précise à cette question-là. Je pense que le fait que ça touche un évêque flamand,
c'est clair.
Avec sans doute aussi une tradition catholique plus prononcée en Flandre, hein, qu'elle n'est en Wallonie, peut-être que ces deux éléments-là ont permis de considérer que c'est remonté encore
c'était
un peu plus
saillant.
Vite. Mais, comme j'ai dit, personne n'est épargné par cela. Et donc, voilà, maintenant le débat, il est national, il est même européen, il est même mondial. Il y a une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, elle le sait, Valérie Van Pee, qui va d'ailleurs arrêter la politique, qui est une parlementaire NVA.
Oui.
On a beaucoup échangé ensemble. On a d'ailleurs essayé de faire quelque chose à l'époque sur le plan du droit des enfants ensemble. Bon, ça n'a pas été plus loin parce que manifestement certains ne voulaient pas que ça aille plus loin. Et qui a d'ailleurs subi également ce crime qu'est le viol. Et quand je pense à ce dossier, je pense souvent à elle aussi. Et le fait que Valérie, sans doute en Flandre, n'a jamais mâché ses mots, a toujours tenu un discours extrêmement dur et à juste titre sur le dossier, c'est aussi un des éléments qui a fait en sorte qu'on en parle plus. De grâce, que le silence cesse et que la parole soit d'or.
Après avoir, de façon plus ou moins extensive maintenant, couvert l'actualité, je te propose, Jean-Luc, de passer un petit questionnaire, pas n'importe lequel, un questionnaire de comptoir. Et donc, pour un peu vous expliquer, les amis, de quoi il s'agit, ce fameux questionnaire de comptoir, c'est un petit questionnaire que j'ai fait remplir à Jean-Luc en préalable à ce magnifique podcast. Il durait tout au plus 2 minutes et il avait pour objectif de définir quel homme politique Jean-Luc Cruc était. Jean-Luc, je vais te lire tout de suite le résultat qui est sorti de ce questionnaire qui a évidemment aucune valeur scientifique. Pour ce questionnaire, Jean-Luc Cruc est un décideur pragmatique et rationnel axé sur les résultats. Est-ce que selon toi, c'est plus ou moins pertinent, pointu? Est-ce que là, on t'a affiché dans la lumière?
Alors, d'abord, j'ai détesté ce questionnaire, parce que catégoriser les gens par une question, 4 qualificatifs, choisissez un des qualificatifs, je trouve que c'est réducteur parce qu'est la personne, moi ou toute autre personne. Une personne, c'est d'abord une multiple richesse. Et donc, ce qui est intéressant d'arriver à trouver quand on échange, c'est toutes ces facettes qui font la personne et qui font que chaque personne est unique. Après, si je traduis un peu ce que tu dis, cette capacité de pouvoir décider, je crois que c'est plutôt utile en politique et même nécessaire. C'est peut-être ce qu'on fait d'ailleurs pas assez. Une de mes craintes, c'est que de plus en plus, l'homme et la femme politique a peur de prendre des décisions, a peur de décider, parce qu'il est soumis à des groupes de pression, qui sont d'ailleurs souvent minoritaires, on finit par croire que ce groupe minoritaire est majoritaire. Donc on en perd un peu son latin. Et donc, souvent, ce que je disais autour de moi, et je le dis encore d'ailleurs, c'est, oui, il faut écouter beaucoup de monde. Oui, il faut écouter les experts. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi prendre une décision. arrêter de tourner autour du pot. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On sait bien, quand on prend une décision, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais il faut avancer.
Je me permets de rebondir un petit peu, on en a déjà parlé, ou plus en amont de ce podcast, de la polarisation. Mais quel est ton rapport au compromis politique ? On sait que pendant longtemps, la Belgique a été catégorisée comme ce pays où c'était simple, ou du moins c'était admis d'arriver à des compromis politiques. C'est pour cela aussi qu'on a eu pas mal de Belges dans les institutions européennes, notamment au Conseil européen. On a d'ailleurs maintenant Charles Michel, le bien connu. Et donc, je me demandais un peu, toi de ton côté, c'est quoi ton rapport au compromis ? T'as pas mal appuyé sur le fait que c'était aussi le rôle de politique de prendre des décisions. Mais est-ce que le compromis à la belge reste quelque chose qu'on doit continuer de promouvoir ?
Oui, il est essentiel. Et c'est prendre une décision, causer un compromis. Parce que ça fait la synthèse de plusieurs idées. Et je trouve que oui, c'est peut-être ça qui manque d'ailleurs aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive plus à trouver des compromis. C'est comme si on gommait finalement la diversité. On sait bien qu'on ne sait pas. Et heureusement, j'ai envie de dire, plus faire un gouvernement avec un seul parti, à la française, ouais. Encore que même en France,
oui, ça devient compliqué,
ils ont
aussi
du mal à y arriver. On va dire à l'américaine. Et je répète, heureusement. Mais ça pousse à un compromis. Alors parfois, c'est pas compris justement par tout le monde. Mais moi, je chéris ces compromis. Ils sont toujours évidemment critiquables. Ce que j'ai beaucoup plus de mal à accepter, c'est que de l'extérieur d'un gouvernement, ceux qui ont formé ce gouvernement passent leur temps à bombarder ce gouvernement. Ça ne va pas. La tâche est difficile pour tout le monde, en ce compris pour les ministres qui sont dans un gouvernement.
Du coup, les amis, vous l'aurez compris, le compromis à la belge a encore de belles années devant lui, du moins chez les engagés. N'hésitez pas, franchement, on va le mettre en dessous, sous une petite astérix. Si vous êtes pour le compromis, votez les engagés. Mais c'est vrai que le pragmatisme en politique, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, revient de plus en plus chez les jeunes. Je me fais un peu porte-étendard des jeunes beaucoup aujourd'hui, mais bon, de fait, à 21 ans, je suis jeune, du moins encore pour un petit moment. Il est vrai que face aux challenges qui sont d'une envergure, je pense, presque inédite pour toute une série, pour la civilisation humaine, que ce soit la transition écologique, et on est déjà revenu pas mal dessus, mais même le rôle des réseaux sociaux, le fait qu'on est dans une économie globalisée, il fait que il est compliqué lorsqu'on se concentre sur une idéologie. Par exemple, si on se dit socialiste, il est vrai qu'une idéologie a des fois du mal à répondre à tous les aspects de tous les problèmes et leur envergure. Et je pense qu'il est vrai que ce pragmatisme politique qui veut qu'on puisse piocher des fois dans des solutions proposées par les socialistes, des fois dans les solutions proposées par les libéraux, des fois par les écologistes, c'est quelque chose de profondément bon, de profondément sain pour une démocratie. Et c'est un petit peu, on revient encore à cette thématique de compromis. Je pense sincèrement que le compromis, c'est presque la forme la plus haute de politique, dans la mesure où c'est ça aussi la démocratie, c'est l'institutionnalisation des antagonismes.
Bah écoute, je pourrais pas l'exprimer mieux que tu ne l'as fait. Donc nous sommes d'accord.
D'accord. Jean-Luc, après ce fameux questionnaire qui restera dans les annales, je n'en doute pas, je vais te poser une petite question dans le style un peu prospectif. Qu'est-ce que tu ferais si ? La question du jour. Attention, je te sens motivé, très 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 motivé. Que ferais-tu, Jean-Luc, si, durant une semaine, tu étais Premier ministre et que tu devais gérer une crise politique majeure ?
J'essaierai de réunir autour de la table, parce que c'est une crise majeure, l'ensemble des partis démocratiques du pays pour tenter de rassembler le consensus le plus large possible. Parce que c'est une crise majeure. Si ça n'est pas une crise majeure, je tenterai de faire ce que beaucoup de premiers ministres d'ailleurs ont tenté de faire, c'est d'avoir un accord au sein du gouvernement. Mais j'éviterai en tout cas une chose, c'est de passer des longues nuits pour le faire, ou des longs week-ends, et de penser que en cumulant les heures, en épuisant les uns et les autres, on trouverait une meilleure solution. Moi je crois que c'est le contraire.
Les amis et amies, on arrive tout doucement déjà malheureusement à la fin du podcast, et pour conclure cet épisode du Café du Centre, on va parler de gens inspirants. Jean-Luc, j'aimerais te poser la question, est-ce que là, comme ça, d'emblée, il y a une personne qui t'a inspiré dans ta vie ou qui t'inspire actuellement à continuer ton engagement politique ?
Mais je parlerai, et puis je suis désolé pour les jeunes, parce que peut-être que le nom ne dit plus grand-chose, de Golda Meir. Golda Meir, ça a été la première ministre de l'État d'Israël, la première femme d'ailleurs, qui appartenait à ce qu'on appelait le Labour, le Parti Socialiste israélien, d'origine européenne. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle m'a toujours parlé ? D'abord parce que elle est d'une famille qui, comme moi, a ses origines juives, et je n'ai jamais caché cela. Partie de sa famille est forcément, comme chez moi également, restée dans un endroit où on collectionnait les juifs en Israël, qu'on a appelé les camps de concentration. Mais aussi, c'était une femme qui n'a pas eu peur, à travers sa diversité, de montrer à la fois cette différence et cette capacité de décider. Alors évidemment, on peut critiquer le fait que l'autorité palestinienne n'ait pas pu, à l'époque, qui n'existait d'ailleurs pas, n'a pas trouvé une solution sur une terre où il doit y avoir place pour deux pays. Mais les temps étaient différents, mais elle a aussi pu résister à une invasion, à des guerres. Et puis ce sont des petits compromis politiques qui un jour lui ont fait quitter la politique. J'aurais pu mettre dans le même panier une autre femme pour qui j'ai une énorme admiration, c'est Simone Veil, qui a permis d'égaliser l'avortement en France. Et qui sommes-nous quand on parle d'avortement en tant qu'homme? Je crois qu'il faut beaucoup de modestie quand on parle de ça. Et qui l'a fait contre, d'ailleurs, une grande majorité, pas de son parti, mais de la droite française, et qui a réussi à le faire. Et c'est pour moi des combats inspirants. Peut-être parfois tort d'avoir raison trop tôt, mais si en conscience on pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut jamais le regretter.
Je me permets aussi du coup de faire le contrepoids. Tu as cité deux femmes, je vais citer deux hommes à mon grand désarroi. Je me permets de faire un petit disclaimer, je vais citer deux hommes politiques français, vous le savez. Bon, la politique maintenant, c'est déjà ma vie à 21 ans, je l'étudie, je la pratique en allant sur les campus et en étant dans des organisations de jeunesse. J'avais envie de parler de deux hommes, pas pour leur positionnement politique, plutôt pour des aspects de leur personnalité. Premièrement, et il est malheureusement revenu à l'actualité pour des mauvaises raisons, je pense, Nicolas Sarkozy, pas pour ses positionnements politiques, mais pour son énergie, vraiment. Les premiers souvenirs, d'hommes politiques, de politiques que j'ai en tête, c'est Nicolas Sarkozy à la télé, son énergie, ce que je pense être sa profonde passion pour la France, pour l'exercice de responsabilité. Et en ça, je serai toujours, en quelque sorte, intrigué, ou du moins intéressé par le personnage. Et la deuxième personne, dans un registre tout autre, c'est Emmanuel Macron. Alors attention, encore une fois, je refais le disclaimer, pas sur ses positionnements politiques, et encore moins sur ses déboires récents. Mais pourquoi Emmanuel Macron? Pour son ambition et le courage politique, je pense, dont il a fait preuve, notamment en 2017, lorsque, peu avant les élections présidentielles, il quitte le gouvernement, il fonde son parti, donc à l'époque En Marche, et qu'il tente de, d'une certaine façon, faire bouger, tenter de casser le statu quo. Il a proposé quelque chose, du moins à l'époque, que j'ai estimé, et que j'estime toujours, bon, plus récemment, mais comme une vraie proposition politique qui répondait à une attente. Et l'ambition dont il a fait preuve, le sens aussi politique dont il a fait preuve, c'est quelque chose qui m'inspire. Je pense sincèrement que l'ambition, ça doit pas être un gros mot, et il est clair qu'Emmanuel Macron caractérise bien l'ambition politique.
Mais figure-toi que Sarkozy, j'ai connu Sarkozy, et j'étais avec Didier Reynders et Pierre-Yves Jolet à la Madeleine, à Paris, lorsqu'il a été élu. On l'avait vu dans un meeting avant à Lille aussi, transpirant tellement il avait donné dans son meeting. Il sortait de scène, comme on dit, comme un artiste, il changeait de chemise tellement il était mouillé. Je dois dire que j'ai beaucoup de déceptions après, parce qu'il y a des virages qui me semblent vraiment pas acceptables. Mais je peux être d'accord sur l'énergie qui se dégageait du personnage. Et se tromper n'est pas une erreur. Ça, tout le monde se trompe. Mais on pensait à l'époque qu'il pourrait rassembler la France, qu'il pourrait réussir. Ce qu'il n'a pas, et c'est le cas de, je crois qu'on peut le dire, pas toujours réussi. Puis il y a d'autres pages qui sont moins glorieuses.
Ça y est les amis, on arrive à la fin de cet épisode du Café du Centre, et pour ponctuer et conclure cet échange, je tenais évidemment à remercier Jean-Luc de m'avoir fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Merci Jean-Luc.
Tout le plaisir a été pour moi.
Et pour conclure, je vais continuer et perpétuer une tradition que j'avais commencée dans mon premier épisode du podcast, en terminant avec une citation de Nicolas Sarkozy du temps des tempêtes, si ma mémoire est bonne, qui disait donc « Le sens de la politique, c'est voir grand, voir large, voir pour demain ».